Radio Capi, grand témoin.
Ancien secrétaire général du PPRD, ancien président de l'Assemblée nationale et actuellement président national de l'Union pour la Nation congolaise UNC, Vital Kamerhe est celui que grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Vital Kamerhe, merci de nous recevoir chez vous, avec vous, dans notre entretien. Nous parlerons de votre personne, de votre parcours politique. Nous évoquerons aussi votre divorce avec votre ancienne famille politique. Nous parlerons également dans cette émission du nouveau parti politique que vous venez de créer. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une petite biographie de vous. Vous naissez un certain 4 mars 1959.
À Bukavu, à minuit 5 exactement, à l'hôpital congolais, comme on appelait cet hôpital à l'époque.
C'est à Bukavu où vous grandissez?
Non, je n'ai pas grandi à Bukavu, j'ai quitté Bukavu en première primaire à l'école de Buolo 3. Et d'ailleurs, pour rendre hommage à tous ceux qui m'ont enseigné et à cette terre qui m'a vu voir mes premiers pas, je suis allé construire 6 salles de classe là-bas à Bukavu. Je ne les ai pas encore terminées, j'ai déjà mis la dalle. Je tiens à terminer cela pour marquer mon nom dans l'histoire. Et cette école qui a vu le petit Vital Kamerhe commencer à aller à l'école.
Alors dites-nous, dans quelles conditions avez-vous grandi?
Dans des bonnes conditions, puisque quand je suis né, mon père était déjà comptable à la caisse d'épargne, la Cadeco à l'époque, et puis devenu Cadesa avec la zaïralisation. Mais entre la Cadeco et la Cadesa, mon père travaillait à la Banque Centrale. Mais il avait comparé des salaires, curieusement à l'époque, à la Cadeco, on payait mieux qu'à la Banque Centrale. Donc il est resté à la Cadeco jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé, sauf celui des DG. Il était directeur de département des succursales et agences. Et nous avons fait tout le pays, des villages, nous avons fait des petites agences en Gandajika, nous avons été à Lodja, nous avons été à Mbujimayi, Kananga, Kikwite, nous avons été à Lubumbashi, à Kisangani. Mon père était partout, donc je ne saurais pas vous citer. C'est ce qui a fait d'abord que j'ai beaucoup d'amis des différentes cultures.
Et on comprend pourquoi vous parlez facilement les quatre langues nationales.
Et ça m'a permis de pénétrer les réalités de d'autres pays qui sont différentes d'un coin à l'autre.
Alors, vous avez fait le tour du Congo pendant toute votre enfance. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de cette enfance?
D'abord, découvrir que mon pays est très vaste et très riche, avec beaucoup de richesses. Et que mon pays a un peuple merveilleux. Et j'ai eu beaucoup d'amis. Je pense à Jean-Pierre Mpinda, qui est aujourd'hui directeur à Mbashi. Je pense à des amis comme Timbalanga. J'ai perdu des traces. Mais il y a un autre Timbalanga. Lui, c'était déjà en 6e des humanités, qui est chef de la section de scanner au niveau des CNTP et des cliniques universitaires. Je pense à beaucoup d'amis.
Et vous êtes toujours en contact avec vos anciens amis, vos vieux amis?
Je voudrais que vous puissiez interroger mes amis. Ils vont vous dire. Quand j'étais président, d'abord ministre de l'information, quand on se rencontre, je suis sur le boulevard, je découvre un visage que j'ai reconnu. Je m'arrêtais, j'embrassais l'ami et je lui demandais où est-ce qu'il allait. On pouvait rester un moment ensemble. À l'Assemblée nationale, vous savez, on a l'habitude de chasser tout le monde quand le président arrive. Allez interroger les membres de l'administration, vont vous dire que le président Kamerhe avait mis fin à son époque, à cette pratique. Puisqu'il y avait beaucoup d'amis qui n'arrivaient pas à m'attendre, ils avaient pris comme stratégie de m'attendre dans les couloirs. Et c'est comme ça qu'un jour, je vais découvrir un grand ami à moi. Inséparable, Séraphin Moussassa, qui était devenu policier. Il dit, Séraphin, tu n'as plus continué les études. Malheureusement, il est mort. J'ai perdu le numéro de sa femme, si elle m'entend, qu'elle me cherche. Parce que Séraphin, c'était un autre moi-même.
On va chercher tous vos anciens amis pour leur poser cette question.
Tchaba Tinzela, qui est au fonds de promotion de l'industrie, c'est un grand directeur. Il va vous parler de ma jeunesse. Il va vous dire combien de personnes j'amenais à la maison le week-end pour manger avec moi. Et combien ma mère était heureuse. Mais mon père, bon, évidemment, c'est un ancien séministe. Il trouvait que c'était un peu du banditisme. Mais en même temps, il disait, bon, cet enfant, peut-être c'est la générosité, on le laisse faire. Je venais avec tous les amis de l'université à la maison. Vous pouvez demander à Jean-Lucien Boussa, vous pouvez demander à Ansapoutou, vous pouvez demander à Big Master, vous pouvez demander à Jean-Marie Bolle. Ce sont des grands messieurs aujourd'hui. Mais j'ai aussi des étudiants que j'ai enseignés qui sont des grands messieurs. Matata Mponyo, ministre des Finances, qui était un brillant étudiant, je lui avais dit. Il y avait Simene, qui était un brillant étudiant. Émilie Mouchoubekwa, qui aujourd'hui est c'est l'honneur de la femme congolaise, secrétaire exécutive adjointe à la SADEC. Et j'avais dit à ces trois étudiants que vous êtes promis à un bel avenir. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner.
Nous avons rencontré quelques amis de Vital Kamerhe. Bonjour monsieur, vous allez commencer par vous présenter. Parlez-nous un peu de Vital Kamerhe. Il est quel genre d'homme, vous qui avez eu à les fréquenter à l'université pendant votre jeunesse? Il est quel genre d'homme?
Je m'appelle Tchaba. On a étudié ensemble, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble parce qu'en fait, j'ai passé avec lui 7 mois chez ses parents. C'est quelqu'un qui est prêt à se dévouer pour les autres.
Je m'appelle Jean-Lucien Boussa, je suis député national, vice-président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du MLC. Vital Kamerhe, pour moi, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. On a passé beaucoup de temps ensemble, surtout la jeunesse à l'université, après l'université. On continue à se fréquenter. C'était un homme de grande ouverture, sociable, intelligent et très pragmatique. C'est quelqu'un qui, dans ses relations, évite en tout cas le plus possible les conflits.
Moi, c'est M. Jean-Marie Bollet. Je suis directeur à l'UGDEP, où j'ai travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années. Maintenant, j'ai pris ma mise en disponibilité. J'ai connu Vital Kamerhe à l'université, en première année. Au fait, en première année, quand je le connais, on s'est brouillé un peu pour une question de cours. Et au fil du temps, on deviendra des grands amis. Vital Kamerhe, c'est un garçon qui s'est assumé depuis qu'on était à l'université, le fond de ses idées. Vital Kamerhe, c'est un garçon très, très, très fidèle en amitié. Du haut de ses fonctions hautes au niveau de l'État, même en cortège, si Vital Kamerhe voit un ami qu'il a connu à l'université, il s'arrête.
Radio Capi, grand témoin.
Vital Kamerhe est marié, père de combien d'enfants ?
9 enfants.
Parlons de vos études. Vous êtes diplômé, vous avez une licence en économie.
Oui, je voulais faire la polytechnique. Uh-huh. Ça, c'est une blague, je dois la raconter. Vous savez, à l'époque, il y avait toujours les premières listes et les deuxièmes listes. Mon père, à mon insu, va demander au recteur, non, cet enfant est têtu. Moi, je ne veux pas qu'il fasse la polytechnique. Il doit faire l'économie. Mon nom est sorti à la faculté des sciences économiques. Je rentre à la maison, à ce moment-là, nous étions à ma campagne, je dis à mon père, voilà, mon nom est sorti en économie, pour moi, je considère que c'est une faculté des femmes, je ne vais pas faire ça. Moi, je voudrais une faculté où je dois participer à la reconstruction du pays, où je dois créer quelque chose, une voiture, un avion, un réacteur. J'avais des idées comme ça à l'époque. Et puis, il me dit, bon, va essayer 2 ou 3 jours. Et quand je vais à la faculté des sciences économiques, qui je vois comme professeur qui entre, professeur Mabi, tout beau, avec une belle voiture, tiens, un bel abacos. Qui entre après, tiens, je vois le gouverneur de la Banque centrale qui passait sans bois, puis d'Abangui. Ah, mais dis non, l'autre là, c'est le ministre de l'Agriculture. Dis, ah, bon, comme j'ai l'ambition de devenir ministre, je crois que c'est ça ma faculté. Et voilà comment j'ai aimé l'économie. Et j'ai terminé donc la faculté des sciences économiques comme lauréat de l'université.
Avec mention distinction.
Distinction, en première session à l'amphithéâtre, les jours de la proclamation, mon père, et n'est pas tombé en seconde, il est tombé de joie. Et nous étions habillés de même abacos ces jours-là.
Et vous ne regrettez pas d'avoir fait l'économie aujourd'hui?
Je ne regrette pas, c'est pourquoi les enfants, dans la Bible, il faut écouter les papas et les honorer. Je crois qu'ils voient mieux que nous ce qui peut nous arriver plus tard. Et ils ne peuvent qu'œuvrer pour notre bien. C'est un conseil que je donne aux autres enfants.
J'espère que les enfants vous ont compris. Vital Kamerhe, parlant de votre parcours politique, qu'est-ce qui vous a amené à faire la politique?
La politique, c'est depuis l'université. D'abord, quand nous avons appris tous, parce que nous étions tous d'abord furieux. Vous vous rappelez qu'on avait fermé l'université en 81, donc 80-81. Aussitôt, entré à l'université, on ferme l'université. Parce que nous étions tous des réactionnaires, on n'était pas d'accord avec le régime en place. Mais Dieu merci, en 82, il y a quelques fils courageux du pays qui disent au maréchal Mobutu, trop c'est trop, l'impère parti état, pas question.
Vous parlez des 13 parlementaires.
Donc nous avons Tshisekedi Lumumba, nous avons Galula Pandagila, Makanda, nous avons Vieja Onken, nous avons Kyungu Akumwanza, nous avons Kibasa Maliba, ils sont nombreux, Birindwa et tous les autres. Et je voudrais donc rendre un vibrant hommage à ces dignes fils de notre pays. Parce que nous, les étudiants, qui avions besoin de modèles, nous avons trouvé le modèle. Nous avons dit, voilà, le courage, puisqu'il y a déjà le leader, nous devons marcher. Et c'est comme ça qu'on va être arrêté dans beaucoup de marches pour accompagner l'UDPS. Et nous avons pris des cartes de l'UDPS. Donc, j'ai commencé comme étudiant, membre de l'UDPS. Et nous animions l'UDPS à l'université de Kinshasa, bravant les faits recteurs Bingoto et tous les mouchards et qui, à l'époque, était dans les hommes pour nous surveiller.
Avant d'adhérer à l'UDPS, vous avez été membre de la jeunesse mobutiste.
Je n'ai jamais été dans l'impère. Si j'avais été dans l'impère, j'allais assumer. Je suis quelqu'un qui assume. Cette blague est venue comment? Un jour, je n'en veux pas à mon ami Valentin Moubaké. Nous avions une discussion sur Sangoumala. Et c'est Paul Diakessé qui faisait ses face-à-face, Vital Kamerhe et Moubaké, devenant évidemment dans les politique. Puisque je veux vous dire qu'à un moment, nous étions tous dans le même parti. Et donc, Moubaké, puisque j'ai l'acculé avec des arguments. C'était à la veille du dialogue intercongolais. D'ailleurs, toi, tu as été de Frongemont. Il a lancé ça comme ça et tout le monde a ramassé la phrase. Mais je mets Radio Capi au défi. Je sais que vous savez fouiner. Vous verrez le nom de Vital Kamerhe nulle part, ni dans la jeunesse du MPR de l'université de Kinshasa. Mes amis qui ont été des commandants à l'université de Kinshasa peuvent vous dire, comme Big Master, il peut dire, Vital n'a jamais été dans la JMPR. Jean-Lucien Boussa n'a jamais été non plus dans la jeunesse de l'IMPR. Et vous dira que nous étions des réactionnaires.
Aujourd'hui, vous êtes homme politique congolais. Si je vous demandais de définir c'est quoi un homme politique, qu'est-ce que vous me diriez?
Un homme politique, ça doit être d'abord un ouvrier au service de son peuple. Un homme politique, ça doit être quelqu'un qui est porteur d'une vision, porteur des idées novatrices, porteur des solutions. Et un homme politique, ça doit être quelqu'un donc qui a fait le diagnostic, qui connaît le milieu et qui connaît les problèmes de son peuple. Donc vous descendez dans le peuple, vous servez le peuple et avec lui, vous apportez le changement.
Et vous remplissez ces critères, vous, Kamerhe?
Et je suis de nature humble et modeste. Mais tout ce que je dois vous dire, vous pouvez interroger tous mes amis. Je pense qu'un homme politique, c'est celui qui doit savoir vivre les conditions de son peuple. C'est lui qui doit savoir dire trop c'est trop. Prenons l'audace de changer les choses et indiquer avec le peuple, voici les solutions que nous pouvons apporter à vos problèmes parce que nous les connaissons.
Alors vous avez énuméré les critères d'un homme politique. Je ne vous ai pas entendu parler de la constance. Est-ce que ça ne fait pas partie des critères d'un homme politique?
La constance peut être définie de plusieurs manières. Vous savez, d'abord, la politique n'est pas statique. Vous savez, les gens qui parlent de la constance, il faut l'inscrire aussi dans un contexte. Par exemple, en ce qui me concerne, je peux dire que je suis constant. Dans mes idées, dans ma façon de voir les choses, je suis incorruptible, ni par le mouchoir de tête, ni par le mouchoir de poche. Donc, je suis quelqu'un, quand je tiens à réaliser quelque chose pour le bien-être général, je le fais. Vous restez constant pour autant que les navires dans lesquels vous êtes prennent la bonne direction. Mais si les navires commencent à prendre la mauvaise direction, vous dites non. Là, ce n'est plus la constance dans le parti. Je reste constant dans ma direction et dans mes idées et dans la vision que j'ai choisie.
Après le régime de Mobutu, c'est l'Afdel qui arrive au pouvoir en 97. Et là, on vous retrouve aux côtés de M. Laurent-Désiré Kabila. Vous vous connaissiez personnellement avec Laurent-Désiré Kabila?
Avant de répondre à cette question, permettez-moi quand même de dire un mot pour remercier tous ceux qui m'ont formé à l'université de Kinshasa. Parce que quand j'ai terminé, tout de suite, je suis devenu assistant du professeur Niembo Chabani, qui était devenu un gouverneur de la Banque centrale, vice-premier ministre, il vit encore. J'étais devenu aussi assistant du professeur Katangaya Mutumba, et chaque fois que je lui donnais la parole à l'Assemblée nationale, j'étais heureux de donner la parole à mon professeur. J'étais devenu aussi assistant de Kioni Kiabantu, de Lomeya Bosongo, Likundelio. Donc j'étais assistant de 4 professeurs à la fois. Et je voudrais donc dire qu'avant Laurent-Désiré Kabila, j'ai travaillé dans 12 ministères. J'étais directeur de cabinet à l'enseignement supérieur universitaire. J'étais conseiller au PTT, j'étais conseiller au ministère des Finances, j'étais directeur des cabinets à l'environnement, j'étais conseiller économique et financier au ministre, vice-primature de l'économie et de l'industrie, j'étais coordonnateur adjoint du premier ministre Birindwa pendant 3 mois, j'ai fait beaucoup de ministères.
Alors comment avez-vous découvert Mzé Laurent-Désiré Kabila?
J'ai découvert Mzé, comme tout le monde, apeuré. J'étais caché parce que nous venions, il y avait 2 mois que le gouvernement Likulia venait de remplacer le gouvernement Kengo dans lequel j'exerçais la fonction de directeur de cabinet au ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Donc nous disions, on ne sait jamais, avec les libérateurs, il fallait se cacher. Et donc moi je me suis caché pour rien. Et puis finalement un jour je regarde à la télévision, je vois un général très intelligent en train d'expliquer le projet du service national. C'est le général Kaloumé. Et donc je cherche son numéro. Et un ami Kadjouba qui est mort, un colonel, me dit je t'amène chez Kaloumé. Je parle avec Kaloumé pendant 15 minutes. Il me dit, monsieur, tu deviens mon consultant. Et voilà comment je suis entré au service national. Et une semaine après, je deviens directeur administratif et financier. Et puis après, on attaque Kinshasa. Nous nous retrouvons à l'aéroport d'Ndjili. Joseph Kabila est chef d'état-major général de l'armée. Kaloumé est chef d'état-major général adjoint. Et moi, comme civil, j'ai dit, je vais avec vous à l'aéroport. De l'audace, madame, il faut avoir de l'audace. Et ils peuvent témoigner. Et donc.
Et c'est où vous avez rencontré
J'ai rencontré Joseph Kabila qui ne parlait pas, comme d'habitude. Il ne parlait pas. Très calme, il ne mangeait pas, il était très préoccupé et je sentais que l'homme était vraiment très préoccupé. et Mzee était là, nous devions obtenir à demander à Mzee d'aller à Lubumbashi pour ne pas déranger les dispositifs qui étaient mis en place. Et donc, Joseph Kabila, le général Kaloumé Numbi et moi-même et les autres, nous devions aller à Harare. Et c'est là qu'on va aller défendre les dossiers pour l'arrivée des troupes de la SADC, madame. Victoria Falls 2, le 8 août 1998, dont un certain Vital Kamerhe entre en danse. Mzee, j'étais devenu en réalité son enfant. Et je suis le seul, je me souviens, à m'être opposé à Mzee. C'était à l'occasion de l'acceptation de plein de désengagement des Harare. Ça, c'est un rôle que j'ai joué. Et donc, après, nous allons signer le sous-plan des engagements. Et ça, c'est une autre histoire, madame, très importante. Et ces jours-là, pour moi, je crois que c'était la signature de l'arrêt de mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Parce que nous discutons sur deux projets. Il y avait des groupes. Un groupe qui dit, nous devons aller attaquer les Rwandais et les RCD à Pointe. Un autre groupe que moi, je pilote, j'ai dit, nous devons privilégier la solution diplomatique. Et Mzee dit, allez, on fait les deux. Kamerhe traite au groupe Harare et les trois, donc, nous signons les sous-plans des engagements des Harare avec les James Kabarebe, avec Léon Dekane, avec les Moussa Nyamwisi et tout le monde. En même temps, Joseph Kabila, à la tête d'un contingent, ils attaquent Pweto, ils sont défenestrés. Et quand nous rentrons, Mzee dit, j'ai été poignardé dans le dos. Et le 16 janvier 2001, Mzee meurt. Joseph arrive le 26 janvier 2001.
Et comment vous avez vécu la mort de Mzee?
Dans la douleur. C'est une perte énorme et jusqu'à présent, je ne suis jamais remis de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il aimait le Congo, mais les grands défauts de Mzee, il voulait changer le Congo tout de suite et maintenant. C'est-à-dire la confusion, la vitesse et la précipitation.
En 2001, c'est Joseph Kabila qui prend le pouvoir. On vous voit à ses côtés. Vous avez même écrit un ouvrage sur lui, « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». En 2006, vous êtes élu député national avec une majorité écrasante, il faut le dire, à Bukavu, au sud Kivu. Votre message pendant la campagne, c'était pour retrouver la paix, voter Joseph Kabila. Est-ce que la paix est revenue aujourd'hui dans
j'avais
l'Est?
Des raisons de le faire. L'histoire est mouvante, madame. Et l'histoire, on ne peut pas la falsifier. Et quand Joseph Kabila est arrivé le 26 janvier 2001, vous vous rappelez très bien, les Congo avaient trois administrations, n'est-ce pas? Il y avait l'administration des gens de Bemba, il y avait l'administration de Nusumba avec des Roubaix-Rois, il y avait notre administration du gouvernement légal. Nous avons donné des conseils, là où nous ne pouvons pas gagner militairement. Mais faisons des concessions, mettons-nous ensemble, réhabilitons Massiré, on a fait les dialogues intercongolais, et puis ramenons la bonne gouvernance, on a fait venir les ministres Batongoulou, des fonds monétaires internationaux, on a rétabli les chaînes de dépenses avec Jean-Claude Massangou, et les finances publiques étaient gérées dans la plus grande transparence, il n'y avait pas des trucs parallèles, c'était dans la ligne des dépenses. Et Joseph Kabila, après 9 mois, avait le certificat de bonne gouvernance. Et donc, nous avons promis les élections. Et moi, j'ai dit au peuple congolais, attendez, votez pour Joseph Kabila parce qu'il a réussi à réunifier le pays. Même si ce n'est pas encore complètement fait, le processus va continuer. Il a amené la bonne gouvernance. Il a montré qu'il est rassembleur et peut être avec...
C'était un message sincère?
Très sincère. Et les traces de l'histoire sont là. Et je ne les regrette pas, madame. C'est pourquoi j'avais écrit « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ». Maintenant, tout change quand nous avons la victoire. Puisque ce que nous avions convenu, c'était de poursuivre ce bon chemin que nous avions emprunté. Et donc, quand nous avons la victoire...
Aujourd'hui, on peut dire que vous avez trompé au peuple, Vital Kamerhe.
Non, j'ai été désabusé. C'est ce qu'il faut dire. C'est comme dans un couple, madame. Vous pouvez aimer un homme qui vous a montré une face et après il vous montre une face. Et l'inverse, vous pouvez aimer une femme et qu'elle arrive dans la maison, elle vous montre une autre face. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas le bon Dieu pour voir les choses cachées. Hélas, je suis à l'Assemblée nationale. C'est là que la démocratie s'exerce. Et c'est là que le contrôle s'exerce sur le gouvernement. Et je découvre des choses. Et je ne suis pas des gens, des personnes qui crient s'il arrive. Je voyais le président, mais c'est le président. Attention, votre gouvernement ne travaille pas. Les gens dorment.
Est-ce que le contrôle s'est faisé, Vital Kamerhe?
J'ai fait 25 contrôles parlementaires qui sont restés sans suite. Et je peux vous donner un petit exemple.
Mais pourquoi il n'y a pas eu des suites, Vital? Vous étiez au pouvoir en ce moment-là?
Je suis président des législatifs. C'est-à-dire, je ne décide pas.
Mais vous, de la majorité, vous avez quand même couvert beaucoup de ministres.
La majorité a couvert beaucoup de ministres.
Vous faites pas, moi, vous faisiez partie de cette majorité.
Mais chacun va assumer sa part de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons appris, et vous avez vu qu'on a voté la Constitution sans l'opposition. À mon époque, c'était impossible. Quand l'opposition sortait, je suspendais la séance, puisque moi, je voulais rassembler le peuple congolais. Parce que j'estime que l'opposition est élue par le peuple. Et la majorité, elle aussi, elle est élue par les peuples. La magie du fonctionnement des institutions de la République, c'est la dialectique. C'est-à-dire, l'opposition et la majorité doivent entrer en choc des idées pour faire avancer la cité. et les deux doivent être au service du peuple.
Au mois de mars 2009, c'était l'explosion entre Vital Kamerhe et sa famille politique, parce que vous avez déclaré ne pas être au courant d'une opération qui devait se faire en RDC contre les FDLR. Comment vous avez vécu ces moments? Vous avez été très acculé par votre famille politique.
En réalité, les vases étaient déjà pleins et l'histoire de l'entrée des troupes rwandaises n'était qu'une goutte qui est venu faire déborder les vases.
Vous cherchez une occasion pour quitter cette famille politique?
Je voudrais vous expliquer que nous avions déjà des divergences fondamentales avec ma famille politique. Parce que je suis un homme d'État, je ne pouvais pas étaler ça sur la rue. Mais maintenant que vous me posez la question, on peut parler de l'histoire. D'abord, je n'étais pas d'accord de la manière dont on avait traqué les hommes de Jean-Pierre Bemba pour les désarmer dans la ville de Kinshasa. On ne peut pas tirer à l'arme.
Vous n'avez pas dénoncé ça, Vital Kamerhe?
Je suis président de l'Assemblée nationale, madame. Je suis de la famille politique du président de la République. J'ai deux choix. Ou j'étais, je parle dans la réunion restreinte, ou j'ai démissionné. Je n'ai pas démissionné, mais j'ai vu Jean-Pierre Bemba à plusieurs reprises pour essayer de trouver une solution moins douloureuse. Et il peut le témoigner, vous pouvez lui téléphoner ou téléphoner à Fidel Babala, téléphoner à François Mamba ou à Sessanga. Ils vous diront que Kamerhe est venu plusieurs fois chez Jean-Pierre Bemba. Il faisait des va-et-vient pour que Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba comprennent que la guerre, il n'y aura pas de gagnants. Tout le monde va perdre. Et les vies humaines vont être sacrifiées. Deux, quand il y a une histoire de la commune, madame, vous l'avez dit que vous étiez absent du pays quand on interpelle le ministre de l'Intérieur à trois reprises et que j'ai donné la parole à Nimwanda Semi pendant deux heures de temps et que je me suis fait fistiger par ma famille politique. Vous allez me dire que vous étiez absent et quand on m'a demandé par écrit la levée de l'immunité de Nimwanda Semi et que j'ai dit non. Et vous n'allez pas me dire que vous étiez aussi absente quand je me suis opposé à la manière dont la révisitation des contrats avait été faite dans ce pays.
Et donc c'était déjà trop pour vous en ce moment-là?
Ensemble, donc, avec les Chinois, nous devons trouver et l'intérêt des Chinois et l'intérêt des Congolais. Les cuivres du Katanga, 12 millions de tonnes de cuivre. Pour quelle retombée pour les Katanga et pour les Congo? Je pose la question. Quand on nous dit on va construire 4200 km de routes asphaltées, mais on ne donne pas les standards de ces routes et les coûts. Nous en sommes où aujourd'hui, madame? Quand on nous dit qu'on va nous construire une autoroute qui va longer le fleuve, qui va monter jusqu'à Binzaïpen et qui va... Beaucoup de gens ont acheté des parcelles. Hein. L'autoroute se fait toujours attendre. Une route partirait de Kinshasa.
Vous n'avez pas acheté des parcelles?
Et une route, les rails, 2000 km de rails devaient être réhabilités. Nous sommes à combien de kilomètres déjà réhabilités?
Je vous ai posé une question, Vital Kamerhe. Vous n'avez pas acheté des parcelles?
J'ai vendu.
Donc, vous avez acheté quand même?
J'avais mes parcelles. Vous n'allez pas dire que je n'avais pas de parcelles quand même. Quelqu'un qui a travaillé dans 12 ministères, et qui a été ministre, qui a été secrétaire général du PPRD, qui a été président de l'Assemblée nationale, je n'ai pas dit que, bon, voilà, moi je suis un ange, je n'ai jamais acheté une parcelle. Non, acheter une parcelle, ça, c'est pas un péché.
Avec le salaire qu'on vous payait comme ministre?
Je peux vous dire comment j'ai acheté toutes mes parcelles. D'abord, j'ai fait 150 missions dans le cadre de l'accord de Lusaka. 150 missions, madame.
Et ça va être les frais d'émission que vous avez acheté vos parcelles. On va continuer.
Mon ami Etumba, qui est chef d'état-major général de l'armée, peut témoigner, puisque chaque fois on faisait la comptabilité ensemble.
On va continuer, voilà. Vital Kamerhe. On parlait de ces démêlés entre vous et votre famille politique.
Et donc, c'est quand on annonce l'entrée des troupes rwandaises, sans nous informer, même si on m'avait informé, j'allais dire non. Parce que je ne peux pas comprendre, ne fût-ce que si le plan psychologique, que si le plan moral, comment un pays qui nous a occupés, qui nous a agressés, je n'ai rien contre le Rwanda, sans prendre des précautions, et vous dites les troupes de ces pays-là viennent maintenant pour pacifier la partie qu'elles avaient endeuillée. Il y a un problème. Le 23 août 2009, les délégués du président Kabila et de Paul Kagame vont signer un accord secret. Peut-être que Radio Kapi a déjà lu cet accord, moi je ne l'ai jamais vu. Pour dire, bon, écoutez, tout ce qui s'est fait à Nairobi, désormais, ça ne compte plus. Mais je suis le premier à avoir prôné le rapprochement du Rwanda et du Congo, la revêtue des ambassades. Je suis allé jusqu'à Kigali, j'ai parlé au Parlement du Rwanda.
On dit que vous êtes un anti-Rwandais.
Moi, je ne suis pas un anti-Rwandais, comme on me le présente. Je suis un pro-africain. Je voudrais que tous les Africains vivent en paix. C'est devenu l'arme lourde de la majorité, présentée Kamerhe comme anti-Rwandais. Ça ne me fait pas peur.
Okay, mais comment vous avez vécu toutes les pressions que vous avez eues? On vous a poussé à démissionner?
Difficilement, puisqu'il y avait des menaces. Il y avait des menaces de mort, il y avait des menaces d'arrestation. Mais moi, je répondais par des versets bibliques.
Mais pourquoi avoir mis beaucoup de temps avant de déposer votre démission?
Je n'ai pas mis beaucoup de temps, madame. C'est 58 jours exactement. Je suis un homme de principe. J'ai dit au président de la République, je ne peux pas, comme à l'époque de Lumumba et Kasavubu, créer une crise institutionnelle au sommet de l'État. Mais seulement, monsieur le président, je ne peux pas non plus vous faire un cadeau empoisonné, c'est-à-dire démissionner alors que vous n'avez aucun droit constitutionnel de demander la démission d'un président de la Chambre. Je vais démissionner à la rentrée parlementaire pour sauver l'institution Mais je pouvais dire, monsieur le président, je ne démissionne pas. Et il n'allait rien faire puisqu'il n'avait aucun pouvoir sur l'Assemblée nationale.
Lisez bien la Constitution. Les députés de la majorité, allez-vous pousser à le faire?
Allez me pousser par des moyens que vous connaissez, mais ça ne les honore pas.
Vous n'avez pas seulement démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale, mais aussi du PPRD.
Exact.
Pour créer votre parti politique aujourd'hui, l'UNC, qui se retrouve dans l'opposition, selon vous.
Mais selon certaine... moi. Ah non, il faut rectifier.
Quand vous une regardez... certaine opinion pense que vous jouez le jeu du pouvoir.
Vous êtes de la radio au Capi. Quand vous faites vos émissions là-bas, je vous suis et je suis un fan de Radio Capi. Et vous savez très bien que pour le moment, l'UNC est parmi les trois grands partis de l'opposition. Vous le savez très bien, mais vous n'allez pas le dire parce que ce n'est pas votre rôle de faire notre publicité. Gardez ça dans votre cœur et dans votre conscience.
Les gens se trompent en disant que vous jouez le jeu du pouvoir.
Vous savez, quand vous dites les gens, il faut faire une distinction entre les politiques et la population.
Je parle de la population, pas des
la
politiques.
La population ne dit pas ça.
Si, moi j'ai entendu des gens discuter dans la
oui,
cité.
Mais puisque les politiques font partie de la population, ils influencent certaines personnes à la cité. Et vous savez, l'unanimisme, c'est ça, l'ennemi de la démocratie. Donc je ne peux pas dire non plus que tout le monde va me croire. On croit qu'au bon Dieu. Mais quand je suis allé à Goma, si j'étais quelqu'un qui n'était pas accepté par la population, on n'allait pas voir cette foule-là. Et les militaires du président Kabila n'allaient pas tirer sur moi. Quand je suis allé à Bukavu, les images, il y a eu un reportage de Radio Okapi, j'ai vu la Monique filmer, Monisco aujourd'hui, j'ai vu tout le monde filmer, on n'a jamais vu ça nulle part. Ce qui fait que quand j'ai annoncé mon départ pour Kindu, on a arrêté tous les membres de l'UNC. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, M. Mtchapa a même été perfusé dans le cachot. Et j'exige au gouverneur qui bloque ce dossier, qui n'a aucun soubassement, de libérer ce monsieur. Nous n'avons même pas encore annoncé notre départ à Mbandaka, mais nous sommes attendus à Mbandaka. J'ai vu les images des 8 mars à Idiofa. Je vais vous donner un petit DVD, vous allez voir vous-même à titre personnel comment les gens eux-mêmes se sont organisés pour dire « Kamere, Kwisa, 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 Betuke, Kingange, ils m'attendent là-bas. » Dans le Bas-Congo, je vous donne aussi un DVD. Kamere Betuke Kingange, Ngeke Pigila Inki, Kikwisa Raboma. Angandajika, tu dis Kamere, loi ku. Musokoeba, Angandajika, tu dis Bakwindi, la, loi ku. Utuambi, la, Mushulikai, Bitunga, Lidia, Kumpala. Tout ça, c'est fait. Kouja, tu n'as Congoje, Lubumbashi, Bokavu, Kisangani, Kindu. Et tout ça, c'est quoi?
Parlons de toutes ces rencontres que vous faites ces derniers temps avec certains leaders de l'opposition. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces rencontres?
Il n'y a rien qui se cache derrière toutes ces rencontres parce que moi, je me dis, l'opposition et le pouvoir, nous devons être au service du peuple congolais. Si nous, l'opposition, notre seul but, c'est de prendre le pouvoir pour le pouvoir, alors ça ne sert à rien. Si le pouvoir, son but, c'est de se maintenir au pouvoir pour le pouvoir, ça ne sert à rien. Le peuple veut voir changement. C'est pourquoi j'ai été voir Étienne Tshisekedi. Je lui ai parlé brièvement de ma vision. Je lui ai parlé brièvement de ma démarche de la réunification, la consolidation de l'unité d'opposition. J'ai vu Nemanda Semi la même chose. J'ai vu Christian Badibanga la même chose. J'ai vu Bofassa. J'ai vu Paipai Wassakasig. J'ai vu Dambitio. L'opposition, cessons d'abord de parler de personne. C'est ça qui rend l'unité impossible. Parlons d'abord des principes. Quels sont les piliers sur lesquels nous pouvons fonder l'unité de l'opposition? Premier pilier, battons-nous tous pour que nous ayons des élections transparentes. Le deuxième pilier, nous devons présenter un programme. Nous devons dire qu'est-ce que nous, de l'opposition, nous voulons faire différemment de ceux du pouvoir. Troisième pilier, nous devons sensibiliser la population pour dire que vous devez vous enrôler en masse et être vigilant quand on est en train d'enrôler pour savoir qu'on ne nous a pas amené des gens qui viennent de notre planète. Nous, de l'opposition, nous devons nous mettre ensemble. Et puisque nous connaissons l'adversaire, c'est Joseph Kabila. Quel est le cheval qui peut s'affronter à Joseph Kabila? Alors, on dessine, tiens, tel critère, tel critère, tel critère. Qui sont les personnes? Ah, tiens, Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et les autres. Et alors, on commence, c'est un costume, non? On commence à essayer ce costume à chaque candidat. Et à celui que ce costume ira le mieux, l'opposition le copte et c'est lui qui va porter flambeau de l'opposition. Je vous dis, en ce qui me concerne, que moi, je ne voudrais pas qu'on me pose la question de savoir. Si c'était, est-ce que vous serez derrière lui? Non. Il faut poser la question de savoir. Est-ce que vous êtes disposé à soutenir les candidats que l'opposition va choisir, quel qu'il soit? Je dirais oui, puisque ça peut être aussi moi. Et donc, si c'est moi, que les autres aussi disent oui, nous sommes prêts à le soutenir. C'est ça, la démocratie.
Vous pensez que l'opposition réunie, vous êtes capable de battre Joseph Kabila?
Non, il est déjà battu, ça c'est clair. Moi, je ne sais pas, parce que le bilan, c'est déjà son premier ennemi. Je ne vois pas, en moins d'un miracle, je crois quand même que lui-même est conscient que le peuple congolais n'est pas dupe. Et donc, on ne doit pas nous amener dans le schéma de rester 42 ans ou 40 ans au pouvoir. Non, c'est une obsession dangereuse et nous devons tenir les élections dans les délais constitutionnels.
Nous tournons vers la fin de notre entretien, Vital Kamerhe. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Joseph Kabila, à part qu'il soit votre adversaire politique?
Et je considère que le président de la République, c'est un citoyen comme tout autre citoyen congolais, mais le premier de tous les citoyens. Et donc, le président de la République n'a pas d'amis. Ça, c'est par définition. Nous lui devons du respect. Il est président de la République. Et moi, je suis président de l'UNC. Si vous m'avez posé la question de savoir quelles sont les relations entre l'UNC et le PPRD, j'allais vous le dire.
Non, entre vous et le président Kabila, parce que vous étiez très proches quand même.
Oui, nous étions très proches. Nous étions dans le même parti. Et maintenant, moi, je m'occupe à implanter mon parti. Donc, je ne suis pas dans une espèce d'animosité, mais je suis dans l'adversité. Ce sont des rapports d'adversité. Les choses doivent être claires.
Après l'ouvrage que vous avez publié, Pourquoi j'ai choisi Kabila, est-ce qu'on peut s'attendre à un autre ouvrage, Pourquoi j'ai quitté Kabila?
Mais je peux écrire Pourquoi j'ai choisi le Congo. Cette question, il faut la poser à Joseph Kabila. Vital Kamerhe avait écrit un livre et nous vous avons choisi. Est-ce que vous nous avez servi, oui ou non, d'après vous-même? On lui pose la question, pourquoi chaque fois me poser à moi cette question? La question des individus m'importe peu.
Nous sommes à la fin de notre entretien, Vital Kamerhe. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Kapi.
Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment de ne pas désespérer. Le Congo est une grande puissance, mise en veilleuse par les politiciens congolais. Nous, les politiciens congolais, de 1960 à ce jour, nous avons été irresponsables. Parce que si nous avons été responsables, le Congo, qui était au même niveau que le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, aujourd'hui, c'est au même niveau que le Canada, tout au moins au même niveau que le Brésil. Donc, nous devons dire « mea culpa », peuple congolais, et dire « prenons avec notre peuple les nouveaux départs ».
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, ancien secrétaire général du PPRD, ancien président de l'Assemblée nationale et actuellement il est président national de l'Union pour la Nation Congolaise. Merci à Jean-Claude Ciela qui était à la technique au micro Kéline Côté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.